بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, la semaine dernière, on avait complété la sourate Al-Muddathir. Mais on l'a complétée trop vite. Et toute la semaine, ça m'a travaillé qu'on a clôturé فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. On a un peu bâclé les derniers versets parce qu'on voulait terminer la sourate Al-Muddathir pour commencer aujourd'hui la sourate Al-Qiyam. Mais ça, c'est pas possible. On peut pas aller trop vite dans les versets. Et du coup, il y a juste quatre points qu'on aurait dû expliquer la dernière fois, mais il nous manquait du temps. On parlait la dernière fois, on a beaucoup insisté sur le destin. C'est un programme assez compliqué, il me semble. Je sens que ça avait un peu, on avait un peu de mal peut-être à faire passer le message, parce que c'est un sujet complexe entre le fait d'être conscient que rien ne se passe dans ce monde sans la volonté d'Allah, et le fait de savoir qu'Allah attend de moi une prise de décision, ce qu'on appelle en philosophie le libre arbitre. Le libre arbitre existe en islam et le destin existe aussi. Et donc on avait expliqué tout ça. Je ne suis pas en train de refaire le programme de la semaine dernière, mais c'était un sujet assez complexe et donc on s'était un peu étalé, peut-être un peu trop, et du coup en mode tafsir il y avait quelques fawa et quelques leçons à retenir encore concernant la volonté d'Allah. Je vous les résume en 5 minutes inshallah. Les ulama, les mufassirin rahimahumullah rappellent que à l'issue de la lecture et de l'étude de ce verset, une fois que tu as compris le pouvoir d'Allah et le pouvoir de décision d'Allah, qui en finalité est le seul qui prend des décisions, hein Ali, c'est le seul qui prend des décisions, le fait de savoir que tu ne peux pas programmer ton retour vers Allah à un moment de ta vie. Genre te dire que je me laisse aller pendant ma jeunesse, tant que je suis célibataire, je peux me permettre, c'est un péché, je peux me permettre de sortir avec une fille régulièrement, cette semaine, celle-là, l'autre semaine, une autre, et ainsi de suite. Et après, quand je vais me marier, je vais me caser. Et là, je vais être sérieux. Et je demande des taouba. Pareil pour la salah, je prie le Jum'a ou quand je peux. Mais à 40 ans, je vais être sérieux. 40 ans, je vais laisser ma barbe pousser. Je vais laisser ma barbe blanchir. Et je vais être régulier au salah. Ça, c'est toi qui dis. Le problème, c'est que quand tu es en train de faire ce planning spirituel, tu as envie de profiter de ta vie pour le moment, à être dans le péché de façon permanente, et tu te dis qu'à un moment donné, je vais revenir vers Allah. C'est exactement comme, j'ai plus le nom, quand le verset a été révélé, je ne sais pas si c'était Abu Sufyan ou Abu Jahl, vous vous rappelez, je n'ai pas le texte sous les yeux, quand il a dit, ben, dans ce cas, c'est nous-mêmes qui décidons. Quand Allah Rabbul Izzah révèle le verset que ce Coran est un rappel pour ceux qui veulent bien, le sens du verset se rappeler. Et là, cette personne, ce mouchrik, hein, ce n'était pas un musulman, a dit, dans ce cas, si je veux obtenir la guidée, je peux le faire de moi-même. Et si la guidée ne m'intéresse pas, je reste éloigné. En fait, quand je programme mes péchés et mon retour vers Allah, j'ai un peu cette réaction. J'ai l'impression que c'est moi qui est maître de mon destin. Et c'est moi qui est maître de mon avenir spirituel. Quand je déciderai de revenir vers Allah, je le ferai. Mais non, il se peut qu'Allah ne t'accepte pas ensuite. Donc, les savants disent que maintenant que tu sais que ta guidée est uniquement, mais uniquement dans les mains d'Allah, oriente ton cœur vers lui tout le temps. Et un des plus grands bienfaits, c'est qu'Allah nous révèle Ihdina as-sirata al-mustaqim, où on demande à Allah régulièrement de nous guider vers le droit chemin. Ikhwani ya khawati fillah, s'il n'y avait pas Ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah seul sait quelle serait notre situation. S'il n'y avait pas ce verset de la sourate al-fatiha, où on demande tout le temps dans chaque rakat, oh Allah, guide-moi, donne-moi la guidée vers le droit chemin, Allah seul sait où est-ce qu'on serait aujourd'hui. Ça, c'est le premier point, mais qu'on avait un peu cité la dernière fois. Par contre, ce que j'avais oublié la dernière fois, c'est qu'on avait commencé à expliquer un peu à quel point cette guidée-là, c'est essentiel. On avait dit que c'est même plus important que ta santé. Et après là, je m'étais étalé sur la notion d'épreuve. Et je vais m'étaler encore. Je vais me perdre encore, je vous promets. Ce matin, j'ai rendu visite à deux membres de ma famille. Il y en a un qui a 94 ans et l'autre personne à peu près le même âge, mais le deuxième est mourant. Donc, ils habitent pas à Saint-Denis, donc c'est une certaine distance. Et en regardant une personne qui est donc gravement malade, il y a des fois où on se rappelle, il y a 15 ans, il y a 20 ans, comment est-ce que c'était comme un lion qui rugissait et qui était respecté de tous, qui se faisait respecter, qui portait des projets, qui était vraiment, mashallah, l'ossature de la communauté, quelqu'un qui a donné sa vie pour la masjid dans le sud. Et la personne de cette situation à attendre quand Malik Al-Maut arrive, incapable de réagir, incapable d'avoir le moins de contrôle sur sa vie, je vous promets que ça fait réfléchir. C'est là qu'on se rend compte que ziyaratul marid, rendre visite au malade, c'est important. Et là, après un long trajet, je me suis dit peut-être ne pas faire d'ar ce soir parce que avec la fatigue et tout, le trajet, l'enseignement. Et puis je me dis que non, peut-être le dars de tafsir de ce soir, ce sera ma plus belle action de la journée, donc je ne vais pas le rater. Mais après maintes réflexions, je me dis, ben Allah seul sait si la plus belle des actions, ce n'était pas en fait de quitter ta maison et d'aller rendre visite à un malade qui ne pouvait pas communiquer, mais être présent et faire doua pour lui. Allah seul sait dans quoi il y a notre guidé. Allah seul sait comment est-ce qu'on peut obtenir notre Jannah chaque jour. Et j'aimerais que chacun ait cette réflexion sur les a'mal de sa journée, les actions qu'on accomplit chaque journée. Est-ce que j'accomplis des actions qui me rapprochent d'Allah? Est-ce que j'étais un bon croyant aujourd'hui? Et le Ihdina Sirat al-Mustaqim nous permet de demander à Allah de nous guider vers un meilleur chemin jour après jour. Que aujourd'hui soit meilleur que hier et que demain soit encore meilleur, que je me rapproche d'Allah tous les jours. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et donc je disais que également en voyant une personne qui est de cet état proche de la mort, et Allah seul le sait, en train de vivre des années d'épreuves, des années de maladie, c'est terrible ça. On dit que peut-être que le plus important c'est qu'il retrouve la santé, certainement. Mais non, au-delà de tout ça, et qu'Allah nous protège d'épreuves, hein, de maladies, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais au-delà de tout ça, le plus important finalement, c'est pas que tu retrouves la santé, parce que cette personne qui est éprouvée, c'est tout ce qu'elle a pu commettre comme erreur, parce que nous sommes tous des humains, tout ce qu'il a pu avoir comme péché depuis la jeunesse, sont en train d'être pardonnés par Allah, par ses difficultés, par ses problèmes de santé, par ses épreuves. Et c'est valable pour n'importe quelle personne qui est souffrante et malade. Mais donc c'est pas ça le plus important, que la personne obtienne la santé. Non, le plus important c'est qu'Allah protège notre iman et mourir avec la foi. Ça, c'est le plus grand cadeau. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est ce que je souhaite pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, avec pour objectif qu'Allah nous permet d'accéder au paradis et que dans le Jannah, je retrouve femme, enfant, parents, comme on dit, ascendant et descendant. Ça, c'est l'objectif ultime de chaque croyant et de chaque père de famille. Faire en sorte que toute sa famille soit dans le droit chemin et avance sur les pas que notre prophète alayhi salat wa salam nous a tracé. Deuxième point, maintenant qu'on se rend compte de la puissance de la volonté d'Allah, qui est la seule volonté qui régit ce dunya et qui contrôle l'au-delà, parce qu'Allah c'est le Malik Yaw Middin, le maître. Et quand on dit le maître, c'est le seul et l'unique maître du jour de la rétribution. Sache que autant Allah peut prendre la décision de te rapprocher de lui, Allah peut également prendre la décision de t'éloigner de lui. Le prophète alayhi salat wa salam nous a dit que il se peut qu'un serviteur, qu'un croyant prononce une parole qui est tellement aimée et appréciée par Allah qu'Allah augmente son grade immédiatement. Ça peut être moi, un musulman basique, je fais mes prières à la mosquée, mais pas plus, une pratique correcte, d'accord. Et j'ai aidé une personne qui a la difficulté, ou alors j'ai vu quelqu'un éprouver et j'ai trouvé les mots pour le réconforter, pour raccrocher son cœur à Allah, pour qu'il puisse donner un sens à l'épreuve qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire, kalimatun tayyiba, ça peut être n'importe quelle bonne parole.
Ça peut être une parole de guidé, de hidayah envers une personne, et qu'Allah est tellement satisfait de moi à cet instant qu'Allah augmente le grade, augmente mon grade et m'accorde le Jannah et me classe parmi les Ahlul Jannah. Qu'Allah nous accorde cette faveur. Par contre, la suite du hadith, c'est autre chose. Vous comprenez, c'est le contresens, l'exemple contraire. Il se peut qu'un croyant soit au summum de sa foi, un excellent pratiquant, mashallah, régulier. Enfin bref, je vous dresse le tableau que vous connaissez du bon croyant. Mais il dit, un jour, il prononce une parole qu'Allah Azza wa Jal déteste. Ça peut être une parole blessante qui touche une personne sur ses origines, sur sa couleur, sur sa condition sociale. Prendre quelqu'un de haut, ça c'est des choses qu'Allah déteste, ça. L'orgueil, la vanité, la fierté. Et que la personne prononce une parole qui est détestée par Allah et qu'Allah le jette au plus profond de l'enfer. Alors qu'il était, il avait atteint un haut degré de pratique. Donc, ikhwani, khawati fillah, retenons que tout est dans les mains d'Allah. Faisons extrêmement attention, principalement aux paroles que nous allons prononcer. Les paroles, les échanges, par écrit également, faisons attention de ne rien, de ne pas sortir des limites de ce que nous avons le droit de dire ou d'écrire. Deuxième point. Troisième point, il y a quelque chose qui est rassurant, mais ça, je sais que tout le monde le savait. Quand tu réalises la puissance de la volonté d'Allah, qui est la seule volonté, je répète, qui contrôle ce dunya et le akhira, tu es d'une certaine façon tranquillisé au cas où des gens veulent te faire du mal. Dans Al-Baqarah, soit Al-Baqarah, Allah Rabbul Izzah nous révèle « وَمَا هُمْ مِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Même si quelqu'un veut te faire du mal, mais rien ne peut t'arriver sans l'accord d'Allah. Et s'il y a quelque chose de mal qui te touche, c'est qu'Allah l'a bien voulu. Donc toi de ton côté, demande à Allah protection contre toute chose mauvaise. Et n'aie pas peur des gens. Ne crains pas la méchanceté des gens. Ne crains rien. Il faut que ton cœur soit habité uniquement par la crainte d'Allah, parce que sache que rien ne peut t'arriver. Personne ne peut te faire du mal, que ce soit sur le plan physique ou alors toucher à ton honneur ou sur le plan paranormal, quel que soit le mal, sans l'accord d'Allah Azza wa Jal. Allah est ton protecteur. Allah est ton protecteur. Ça, il faut vraiment le garder ancré dans notre cœur. Et c'est ce que le prophète alayhi salat wa salam avait enseigné à Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui était un enfant encore à cette époque, qui était avec le prophète alayhi salat wa salam. Il a enseigné à Ibn Abbas, ihfadillah yahfadhuk, protège le din d'Allah, respecte la religion d'Allah, Allah te protégera. Protège la religion d'Allah, c'est-à-dire pratique, accomplis tes prières, reste ferme dans la pratique de la religion et tu trouveras Allah toujours avec toi. Allah te viendra toujours en aide. C'est ces convictions que nous devons intégrer et inculquer à nos enfants, qu'Allah nous l'accorde. Et puis, dernier point, quand les Quraysh avaient demandé au prophète alayhi salat wa salam que pour croire à son message, ils veulent que l'ange Jibril descendent et amènent pour nous la même chose qu'il t'amène au Mohammed. C'est à peu près 5 versets avant la fin de Al-Muddathir. Ce comportement, cette réaction peut paraître étrange, et puis on se dit que, mais dans le contexte de la révélation, peut-être il y avait une rivalité, ils n'acceptaient pas, ils étaient jaloux de sa prophétie, donc ce genre de parole, peut-être ça trouvait sa place. Mais en fait, là où on a besoin un peu de recul et d'intelligence, c'est qu'on doit analyser cette réaction et par analogie voir est-ce que des fois nous on n'a pas ce genre de réaction. Quand on a des gens qui veulent absolument des preuves pour croire, je veux bien croire à telle chose mais il me faut des preuves concernant la religion, ben c'est le même mode de fonctionnement, c'est le même mécanisme où on ne se soumet pas à Allah, on n'accepte pas ce qu'Allah a décrété parce qu'on a besoin d'une preuve humaine, une preuve logique. Et ceux qui sont toujours à la recherche de preuves ne les trouveront pas. Parce que cette religion n'est pas basée sur ce que tu peux forcément comprendre, elle est basée sur quelque chose qui est puissant, qui est au plus profond de ton cœur. C'est croire en Allah alors que tu ne le verras jamais, de ce dunya en tout cas. D'accord? Et il y a un verset, j'ai écouté un de mes élèves lire ce matin et ce verset m'a interpellé. Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun. Dans ce verset, je ne peux pas regarder sur mon portable aussi, du coup, il faut que je solutionne ce problème. Il s'agit de personnes qui, Allah nous protège, sont déjà dans l'enfer. Ils sont déjà dans l'enfer et demandent, oh Allah, le sens du verset, Ya Rab, oh Allah, soulage-nous du châtiment de l'enfer. Reprends, enlève-nous de l'enfer. Inna mu'minun, c'est-à-dire, maintenant, à présent, nous croyons. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de voir l'enfer pour comprendre que l'enfer existe. Tant qu'on leur parlait de l'enfer de ce dunya, pour eux, non, c'est des chimères, c'est des choses qui n'existent pas. Ils voulaient des preuves. Les preuves, j'ai dit encore, on n'en aura pas de ce monde. C'est une question de cœur et de conviction. Et ces gens-là se retrouvent dans l'enfer. Et là, ils disent, oh Allah, maintenant, maintenant nous sommes mu'min. Enlève-nous, protège-nous du châtiment. Mais bien sûr, c'est trop tard. Voilà les quelques points qui manquaient pour compléter la sourate al-Muddathir. Qu'Allah Azza wa Jal pardonne nos manquements et nous permet de les intégrer et que cela fasse partie de notre iman. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. C'est un grand honneur de démarrer une nouvelle sourate. C'est un grand amana également. C'est un dépôt. C'est une grande responsabilité. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on va être capable de transmettre la révélation d'Allah? Est-ce qu'on va être capable d'expliquer les versets? Est-ce qu'il n'y aura pas des manquements? Est-ce qu'il n'y aura pas des oublis? Est-ce que mes actions sont en accord avec ce qu'on va prêcher? Plein de questions qu'on peut se poser et qu'Allah ait pitié de nous pardonne nos manquements et nous accorde la sincérité, la dévotion que quand je commence le tafsir d'une sourate en tant que ce qui écoute également, que mon but, mon objectif, c'est de remplir mon cœur de la lumière des versets et d'essayer de comprendre la puissance du message divin afin que cela renforce et fortifie ma foi et me permet de mieux adorer Allah et me permet de ne plus le désobéir. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Ziyadatul iman, augmenter la foi par la beauté, la lumière qu'il y a dans les versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة. Bien sûr, on va pas commenter ces 7 versets, mais ils sont trop beaux, je voulais les lire. J'avais très envie de les lire. Non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Ce verset est trop puissant. Son tafsir est magnifique. Son tafsir est magnifique. Et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Vous voyez, Balard, l'être humain qui doute de la puissance d'Allah, qui va nous ressusciter, Allah dit que c'est pas seulement tes os, c'est pas seulement tes os qu'Allah est capable de ressusciter. Le bout de tes doigts, le bout de chacun de tes doigts, Allah va ressusciter et ils vont reprendre la place qui était la leur de ce dunya. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. La traduction est mauvaise. Le tafsir va éclaircir ce verset. Il interroge à quand le jour de la résurrection. Voilà, on va s'arrêter là en termes de traduction. La sourate Al-Qiyama est une sourate makkiya. C'est quoi ton prénom?
Ayman.
Est-ce que tu as déjà entendu parler des sourates makkiya? Des sourates qui ont été révélées à Mecca. Les sourates du Coran sont révélées soit à Mecca, soit à Medina. Le contenu des sourates makkiya, en fait, tous les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce sont des sourates makkiyah, avec lumière, avec Allahu Akbar. C'est vraiment, vraiment ce qu'il nous faut. Et Allah, dans sa hikmah, a protégé sa révélation. Et ces versets qui ont été révélés il y a 14 ou 15 siècles, lorsque le prophète a reçu Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, en 2022, ça me permet, moi, de donner un sens à ma vie. C'est ça, entre autres, le miracle du Coran. Ça me permet à moi de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, quels doivent être mes objectifs et dans quoi je ne dois pas mettre les pieds, dans quoi je ne dois surtout pas m'engager. Et qu'est-ce qui doit animer chaque jour de ma vie. Donc, sourate révélée à Mecca, et comme on a entendu, donc on a récité les premiers versets donc en français, Allah Rabbul Izza jure par le jour de Qiyama. Ne vous préoccupez pas par le non, je jure, mais non. C'est, un, on va dire, ça fait partie des figures de style en arabe, concernant le qassam. Le qassam, le fait de jurer par Allah. Allah Rabbul Izza jure par le Qiyama, et le la, pour ceux qui ont quelques bases en arabe, c'est pas un la nafia. C'est pas un la pour dire non, je ne, non. En français, c'est traduit par mais non, mais c'est pas vraiment le sens. C'est une façon de jurer, par le Qiyama. Donc, on comprend que, par rapport au nom de la sourate aussi, que ce chapitre parle essentiellement du jour du jugement dernier. Pourquoi? Un chapitre, sourate Al-Qiyama, parce que les Quraysh à l'époque, c'est quand même quelque chose d'incroyable ça, qu'on enseigne la sirat aux enfants. Tu vas à la madrasa? Tu as terminé? C'est un alim. Khalas. C'est un savant. Quand on enseigne la sirat à la madrasa, et moi ça me fait toujours bizarre de dire aux élèves, les Quraysh, ils voulaient faire du mal au prophète, les Quraysh. Et ses enfants, ils disent que, mais Moulissab, le Prophète n'était pas Quraysh lui-même? C'est terrible, ça. C'est terrible comment Allah crée des situations. Hein. Comment Allah, pas compliqué, Allah me pardonne ce que j'ai dit. Comment Allah a envoyé des épreuves sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que les premiers qui l'ont traité de menteur, le premier qui l'a traité de menteur en public, c'était qui? Abu Lahab, son oncle. Ali Hadha Jama'atana. Quand le Prophète a fait la première da'wah, ouvertement, il dit, c'est pour ça que tu nous as invités. Parole humiliante. Il l'a presque humilié, mais il ne l'a pas humilié. Aux yeux d'Allah, le Prophète, c'était le meilleur. Il n'y a jamais eu d'humiliation. C'était lui, c'était Abu Jahal, un oncle aussi. Quand le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de le hajj, à Mina, le hajj d'avant l'islam, le hajj a toujours existé, vous savez ça, et que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Mina, et le vrai nom de Mina, c'est Mouna. À Mouna, il allait de tente en tente, aller voir les différentes tribus arabes pour les inviter vers l'islam, leur expliquer ce qu'est le tawhid. Et les gens expliquaient que nous voyons, ils décrivent, hein, un homme qui venait et nous invitait vers l'adoration d'un Dieu unique. Et juste derrière lui, un homme plus âgé qui le suivait pas à pas. Et qui disait, ne l'écoutez pas, ce n'est qu'un menteur. Et c'était son propre oncle, Abu Jahal. Comment ça fait mal? Vous savez, quand il y a un problème dans la famille, ou quand il y a un problème, pas dans la famille, un problème de façon générale, et que vous exposez votre problème à la famille, qu'est-ce qu'on attend de la famille? En un mot, du soutien. Si t'arrives un problème à l'extérieur, et que tu en parles à tes parents, à tes oncles et tout, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est un soutien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, reçoit cette mission de la part d'Allah. Et il compte sur ses oncles. Il n'a plus de père, il est yatim. Il compte sur ses oncles pour le soutenir dans sa mission. Aucun de ses oncles ne l'a soutenu. Alors que ses oncles étaient les gens les plus influents de Mecca. Il suffisait qu'Abu Jahl dise, ou Abu Lahab dise que c'est mon neveu Mohammed. Il est vraiment prophète d'Allah pour que Allah seul sait combien de personnes auraient dit la ilaha illallah Muhammad Rasul en même temps. Mais Allah a voulu que les choses se passent différemment et que cette mission se déroule dans la difficulté pour que ce soit une leçon pour nous, qu'on n'obtiendra jamais de belles choses sur un plateau. Il y a un effort, il y a des épreuves, le chemin est long. Mais quand Allah te l'a... Et garde confiance en Allah, ne perds jamais confiance. Au-delà de l'enseignement qu'on retient sur la patience, la persévérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également une leçon de vie. De nos jours, il y a une profession qui est en train d'émerger et ils se font beaucoup d'argent, plus que des gens qui ont fait des études, ce sont les coachs. Coach d'entreprise, coach, avec tout le respect que j'ai pour ces gens. Tu es coach? Pas encore, ouais. Il touche plus qu'un cardiologue. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bref. Et justement, quand on parle de coach, ainsi de suite, ben, dans le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des leçons de coaching, si on veut utiliser le même mot, qui sont extraordinaires. Tout comme on a des leçons de leadership, la façon de diriger, la façon d'orienter, de donner des conseils, de gérer un groupe, de diriger une ville, et ainsi de suite. Ben, dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un mot qui ressort, c'est patience, persévérance, espoir et réussite. En finalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi sa mission. Et quand Allah Azza wa Jal révèle « Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja » ce sahaba qui se met à pleurer, le seul, il dit que cette sourate prouve que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est terminée. Terminée pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal est en train de lui dire que « Khalas, l'aide d'Allah est venue » et les gens entrent fi dinillahi afwaja en masse, ils sont entrés en quantité dans le din. Fais les louanges de ton Seigneur, fasabbih bihamdi rabbika, et demande-lui pardon parce qu'il est pardonneur. C'est-à-dire que il a compris que la mission, c'est Abu Bakr il me semble, non? C'est Abu Bakr qui avait compris que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam était terminée. C'est une grande leçon de vie, un homme qui commence avec toute la ville de Mecca qui le pointe du doigt, qui essaie de le tuer, de l'emprisonner ou de le bannir de la Mecque. Et en finalité, tout Mecca devient une ville musulmane. Ils ont la ilaha illallah. Les idoles sont cassées et le tawhid revient. Et Allah, Rabbul Izzah, atteste que la mission du prophète est accomplie. C'est une leçon de vie pour nous tous. Que quelles que soient les difficultés dans ta pratique de la religion, quelles que soient les difficultés dans n'importe quel aspect de ta vie, sois fort. Le croyant doit être toujours optimiste. Le croyant doit être optimiste. Et cet optimisme-là ne doit pas être basé sur un excès de confiance en soi. Et c'est là que le discours des coachs et des ce genre de profession, là où il y a un décalage, c'est qu'on parle beaucoup de confiance en soi. La confiance en soi, elle commence par la confiance en Allah. Parce que c'est pas le soi, c'est pas le moi, c'est pas le je, hein, qui fait les choses. Non, c'est Allah qui t'accorde son aide. Et du moment que tu es dans le dîn d'Allah, tu es sous la protection d'Allah. Et là, tu peux avoir confiance totalement en ce que tu vas faire et prendre comme décision. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que quand le croyant atteint ce degré de pratique de la religion, où chaque instant de sa vie, il vit pour Allah, qu'Allah nous accorde ce degré, où il n'y a pas un moment de sa vie sans qu'il ne pense à son Seigneur, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à mon Seigneur, mon Rabb, et qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire qui déplairait Allah, il atteint un tel degré que le hadith stipule, ce sont des termes, des métaphores, Allah devient les yeux par lesquels il voit, les oreilles par lesquelles il entend, et la bouche par laquelle il parle, et les mains par lesquelles il agit. C'est-à-dire qu'Allah t'accorde son aide et sa protection H24. C'est là qu'on peut parler de confiance en soi ou quels que soient les termes, parce que tu as l'aide d'Allah. Donc tu sais que tout ce que tu vas faire, c'est bien guidé et sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Je referme cette grande parenthèse. On est parti très loin. Et on est à 29 minutes. Les Quraysh, dans leur égarement, oui, je disais que voilà, les Quraysh, alors que comment ils ont fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était leur sang, c'était l'enfant chéri de Mecca. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'enfant chéri de Mecca. C'était le prodige, c'était la fierté. Tous les Makkis aimaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'ils ont choisi pour replacer la pierre noire, barakallahu fik, quand ils ont reconstruit la Kaaba. Et que les chefs de tribu se bagarraient comme des enfants. Non, c'est moi, à mon tour, à moi, ça, c'est à moi l'honneur. Et ils ont vu, ça dit le premier qui rentre, quand ils ont vu que c'est Mohammed, tout le monde était d'accord. C'était l'homme qui faisait l'unanimité. Et quand il a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihun » khalas, les gens ne voulaient plus de lui. Donc, on revient, ces Quraysh, ils ne croyaient pas en la vie après la mort. Pour eux, et les Quraysh étaient profondément cartésiens. Ils n'étaient pas aussi philosophes que les philosophes grecs, mais pour eux, voilà, la vie, c'est ce qui est devant nous. Quand on meurt, c'est terminé. Alors que les versets étaient révélés concernant la vie après la mort, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le verset qu'on a lu tout à l'heure, l'homme demande à quand le jour de la résurrection, c'était mimbab al-istihza. Il se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire, c'est quand on crie à Matla, quand ça y arrive, ça, cette destruction et cette résurrection et ainsi de suite. Donc, ce verset va faire très mal au Quraysh. Parce que Allah Azza wa Jal décrit avec une précision qui ne peut être que de notre Seigneur Azza wa Jal, Allah donne une description comment aura lieu le Qiyamah et quelle sera la situation des gens en ce jour pour que ce soit un rappel puissant pour les Quraysh. Et c'est ce qui caractérise les versets Makki, ce sont des rappels puissants, des versets très courts, 4 mots, 5 mots, mais extrêmement percutants, et Allah seul est capable de révéler des versets qui touchent à tel point les cœurs. Hada. Naam. On va s'arrêter là. Permettez-moi juste un Saadi et qui donne une belle définition, mais très court. Le cheikh, il est toujours très concis, mais ça, c'est un coach spirituel. Saadi, il est très fort. Parce que il prend des anciens, des mutaqaddimin, comme on dit, des grands mufassirin, il s'inspire d'Ibn Kathir, de Qurtubi, de Tabari, de Al-Baraoui, ainsi de suite, et il apporte la touche du XXe siècle. Il apporte la touche, la vision d'un contemporain qui te permet, qui associe en même temps compréhension du Coran à une certaine psychologie qui te permet de te raccrocher au verset. Pas uniquement te dire qu'est-ce qui se passe, mais te permet de trouver de la ressource. Ça, c'est important. À travers son tafsir, il te permet de trouver de la ressource dans chaque verset du Coran. Achetez ce livre, il est magnifique. Mais introuvable. Il n'y a pas. Je suis désolé. Il n'y a pas. Il y a des gens qui ont été même des grandes librairies en France, à Paris. Il n'y a plus. Alhamdulillah, c'est vraiment un ouvrage exceptionnel. Donc, Allama Sa'di, rahimahullah, et puis je vous promets qu'on s'arrête là, il donne une définition, voilà, l'introduction de Tafsir Surat al-Qiyamah, si je retrouve. Pour l'instant, je ne retrouve pas. Ah, je l'ai, alhamdulillah. Et il dit que Allah Azza wa Jal parle, il fait qasam, il jure par le Qiyamah, il dit, Huwa al-ba'thu ba'd al-maut. Il dit, le Qiyamah, c'est lorsqu'on est ressuscité après la mort. Si on s'imprègne de ces paroles et on remplit son cœur de sincérité, de yaqin, ça doit déjà être quelque chose qui nous touche, être ressuscité après la mort. وَقِيَامٌ نَاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ. C'est cet instant où les gens vont se lever de leur tombe pour retrouver le ruh, l'âme, pour retrouver une certaine vie, et wa wuqufuhum, et ces gens se tiendront debout. Yantaziruna ma yahkumu bihi rabbu alayhim. Les gens vont se tenir debout et attendre. Et l'attente du Qiyama, elle est terrible. On parle de 40 ans. 40 ans sans qu'il y ait de jugement. 40 ans sous le soleil d'aplomb, qu'on connaît les descriptions du Qiyama. Il dit que là, le Qiyama, c'est ça. C'est les gens qui sont ressuscités, qui retrouvent l'âme, qui rentrent de leur corps, qui se tiennent debout et qui attendent, et qui attendent, et qui attendent qu'est-ce qu'Allah décide pour chacun d'eux. Et ces personnes-là sont dans une angoisse, dans une peur indescriptible, parce qu'ils voient le Qiyamah, ils voient les anges qui s'installent, ils voient le tribunal d'Allah qui se met en place, ils voient l'enfer qui est déchaîné, qui hurle, qui crie, qui demande à Allah d'envoyer les gens dans le Jahannam. Et ces personnes savent que la seule chose qui peut les sauver, c'est Allah Azza wa Jalla. Ils attendent qu'est-ce qu'Allah va décider de moi. Ça, tout ça, c'est le Qiyamah. C'est une belle définition d'Allama Sa'di. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde le tawfiq les qualités, je ne sais pas si on les aura, mais qu'Allah nous accorde le tawfiq et nous accepte pour essayer d'avancer ensemble dans l'étude des versets de la sourate Al-Qiyamah, et que chaque verset qu'on verra, inshallah, la réalité pénètre nos cœurs. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.